Bonjour. Eh bien, vous êtes sur Graphite 94.9 FM avec Glissando. Voilà, votre nouvelle émission de musique classique, Glissando, vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et nous voilà ensemble pour commencer l'année 2023. On va la commencer en douceur cette année. Je vous propose d'abord d'aller rencontrer Jean-Sébastien Bach, compositeur allemand du XVIIe et XVIIIe siècle, qui a écrit de nombreuses œuvres magnifiques, plus belles les unes que les autres. Et pendant les vacances, je compulsais un livre qui s'appelle « Le Dico fou de la musique ». Et dedans, ils mettent Jean-Sébastien Bach, fit 48 préludes et fugues et 21 enfants. Cela prouve qu'il avait un grand tempérament. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ces préludes et fugues clavecin bien tempéré. Alors ceux qui font de la musique auront vite compris. Ceux qui en font moins, il faut que je vous donne quand même des explications. Le tempérament, en fait, en musique, désigne l'accord, la façon d'accorder un instrument à son fixe, en particulier pour un clavier. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Et les préludes et fugues, eh bien, c'était des œuvres que Jean-Sébastien Bach a écrites, mais d'autres aussi. Et qu'est-ce qu'un prélude ? Ben, prélude, c'est un genre de musique instrumentale, voilà, qui peut être au piano ou avec d'autres instruments. Et qui sert généralement d'introduction. La fugue, c'est une forme aussi d'écriture musicale qui est née au XVIIe siècle, du nom de fuga, voilà. Et le nom fuir, parce que l'auditeur a l'impression que le thème ou le sujet de la fugue fuit d'une voix à l'autre parce qu'il y a plusieurs voix. Eh bien, là, ce ne sera pas plusieurs voix, mais trois claviers. Enfin, si, ça va faire forcément trois voix différentes. Trois claviers, trois pianos. Pour un extrait d'un concerto de Jean-Sébastien Bach. Au piano, vous aurez Bruno Rigouteau, Jean-Philippe Collard, Michel Béroff. La direction est assurée par Jean-Pierre Valaise. Je vous laisse en présence de Jean-Sébastien Bach. après cette œuvre pleine de sérénité, je vous propose de voyager. Allez, je vous emmène en Italie. Nous allons à la rencontre d'Antonio Vivaldi. Il est né en 1678 à Venise, c'est vraiment un Italien très très connu. C'était un jeune homme fragile, fils de barbier, mais aussi violoniste. Il a grandi à Venise, donc à la fin du XVIIe siècle. En fait, il veut devenir prêtre. Alors il gravit tous les échelons de ce parcours, qui était très fréquent pour l'époque. Tonsure à 15 ans, diaconat à 22 ans, entrée dans les ordres à 25 ans. Mais celui que l'on surnomme le prêtre roux constate qu'il est incapable de dire la messe correctement. Ben oui, il n'a pas une très bonne santé. Alors trop de toux, trop de va-et-vient avec la sacristie durant les offices pour cracher et tousser en raison de ses problèmes respiratoires. C'en est trop pour ses supérieurs. Du coup, il est mis à l'écart. Mais peut-être qu'Antonio était soulagé à ce moment-là, parce qu'il était tellement doué pour la musique. Ses dons sont tels qu'il attire l'attention et qu'un poste très enviable s'offre à lui pour ses 25 ans. C'est celui de maître de violon à la Pietà. La Pietà, c'est une institution où se trouve un chœur de jeunes filles et un orchestre de grande qualité. Et ça va être formidable justement pour Vivaldi. Vivaldi est aussi celui qui a fixé la forme du concerto. Alors qu'est-ce que c'est un concerto ? Un concerto, c'est une œuvre avec un orchestre et un soliste. Et ils vont, en fait, on va dire, dialoguer ensemble. Il est en trois mouvements, ce concerto. Trois mouvements dont vif, lent, vif. Voilà. Donc il met quand même le plus souvent en valeur un seul soliste, ou des fois plusieurs, ça dépend. Et parmi ces concertos figure quelque chose que vous connaissez tous, je suis sûre. C'est les quatre saisons. Où là, justement, Vivaldi a privilégié les couleurs et les effets que sa technique époustouflante de violoniste lui a permis de réaliser. Le pauvre, à la fin de sa vie, il s'est expatrié à Vienne, il est mort, seul, oublié de Venise, après y avoir connu la gloire. C'est un petit peu tristouné tout de même. Mais donc, je vous invite en hiver avec Antonio Vivaldi. L'hiver des quatre saisons. Thank you.
Thank you.
C'était le magnifique violoniste Nigel Kennedy, accompagné par l'English Chamber Orchestra, qui vous proposait justement cet extrait, d'œuvre de Vivaldi, l'extrait des quatre saisons. En fait, c'est l'hiver. Et vous avez pu entendre par moments ce son un petit peu grinçant, par moments, mais fait exprès, bien entendu, parce que, en fait, ça symbolise un petit peu le fait qu'on grelotte, ou qu'il y a des gouttes de pluie, qu'il y a la neige. Après, c'était plus doux, on était devant la cheminée, tranquillement installé dans un fauteuil devant un bon feu de cheminée qui nous réchauffe. Vous voyez, en fin de compte, on va dire, Vivaldi fait son cinéma, mais en musique. Eh bien, on va rester en Italie avec un autre compositeur qui s'appelle Giulio Caccini. Il est né en 1551, donc bien avant, bien avant Vivaldi. Et il était chanteur, il était harpiste, il était compositeur. Donc lui, c'est plus fin de la Renaissance, début de la période baroque. Il demeure en fait connu surtout par une œuvre qu'il n'aurait pas composée lui-même et qui s'appelle l'Ave Maria. Voilà, on sait tous, on entend l'Ave Maria de Caccini, c'est magnifique. C'est vrai, c'est très très beau, vous allez l'entendre. Mais en fait, ce serait un certain Vladimir Vavilov qui l'aurait écrit, c'est un compositeur russe du XXe siècle, c'est une espèce de supercherie musicale. Bon, mais tant pis, c'est tellement beau, vous allez voir, c'est un vrai message de paix et de fraternité. Alors, on va écouter. Ave Maria de Caccini, interprétée par Sammy Joe au soprano et l'Orchestre Philharmonique de Köln. Nombre de musiciens auraient bien vendu leur âme au diable au XVIIe siècle, tout ça contre le succès et la virtuosité. Giuseppe Tartini fait partie justement de ces noms qui ont été attachés à cette légende. Il a dédié sa vie au violon, jusqu'en développer une virtuosité diabolique. Tartini est né en 1692 à Pirano. Comme d'autres personnes citées auparavant, sa famille le destinait à la prêtrise, voyez, comme Vivaldi. Mais lui, il s'est marié et il se tourne vers la musique. Déjà passionné pour le violon très jeune, il l'a appris en autodidacte en jouant 8 heures par jour. Ah oui, ben, il a fait beaucoup de progrès comme ça. Et du coup, il a développé une virtuosité qui a fait sa renommée. À tel point qu'il signe un contrat de rêve en 1721, qu'il le nomme maître de concert à la basilique Saint-Antoine de Padoue à Venise. Et ce contrat lui donne en même temps une totale liberté créative et d'engagement avec d'autres employeurs. Ce qui est formidable, parce que vous savez qu'à cette époque, les musiciens, ils voyageaient beaucoup en Europe. Ils allaient en Autriche, en France, voilà. Donc ça lui a permis quand même de se faire connaître un peu partout. Il maîtrise les effets spéciaux du violon. Alors, les effets spéciaux du violon, c'est faire, par exemple, plusieurs cordes en même temps, qu'on appelle les doubles cordes, ou être très véloce pour jouer dans l'aigu, c'est-à-dire on va tout là-haut dans le violon, voilà, c'est un petit peu compliqué, ou faire des tris. Des tris, ça fait un peu comme un oiseau, ça fait un petit peu comme ça, voilà. Voilà. J'imite très mal le violon, hein, vous m'en excuserez. Voilà, mais il impressionne ses contemporains. Et du coup, il a créé une école de violon très recherchée par les violonistes professionnels. C'est en 1713 qu'il composera son œuvre la plus célèbre, la sonate dite du Tri du Diable, dont la légende dit qu'elle lui aurait été soufflée par l'intéressé lui-même. D'ailleurs, il l'écrit lui-même. « J'ai rêvé une nuit que j'avais scellé un pacte avec le diable pour le prix de mon âme. » Tout obéissait à ma volonté. Mon nouveau serviteur connaissait davantage tous mes souhaits. Alors me vint l'idée de lui confier mon violon et d'attendre ce qu'il en tirerait. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque je l'entendis jouer avec un art consommé une sonate d'une beauté telle que je n'aurais pu en imaginer de plus belle. J'étais stupéfait et charmé, le souffle court, et je me réveillai. Je saisis alors mon violon et essayai de reproduire cette sonorité extraordinaire, mais en vain. La pièce que j'ai alors écrite est certainement une des plus belles que j'ai jamais composées, mais elle reste cependant bien en dessous de ce que j'avais entendu en rêve. Ben dites donc, ce compositeur, Tartini, il est vraiment modeste, hein, parce que vous allez voir, on va l'écouter, cette fameuse sonnette du Tri du Diable. Alors avec 3 mouvements, là aussi, vous allez dire, c'est brillant.
Thank you. Thank you.
Eh bien, ce Giuseppe Tartini était un virtuose du violon, mais justement, le Tri du Diable qu'il a composé était aussi interprété par des virtuoses au violon et au clavecin. On reste en Italie avec un autre violoniste qui s'appelle Niccolò Paganini. Il est né à Gênes avec des parents amateurs de musique. Il apprend la mandoline avec son papa, puis le violon à partir de 7 ans. Il se révèle tout de suite très doué. Il peut rapidement déchiffrer tout ce qu'on lui présente. Alors, déchiffrer en musique, ça veut dire on arrive à lire tout de suite un texte et tout de suite à le jouer, la première fois même sans l'avoir jamais travaillé. Il commence même à composer l'année suivante. Alors qu'il a à peine 12 ans, il donne son premier concert en public au théâtre San Agostino et peut entreprendre dès 15 ans une première tournée en Italie. Il a d'étonnantes facultés, une ouïe incomparable et une sensibilité extrême à la musique. Il était un violoniste talentueux, mais il était aussi guitariste, très bon guitariste. Et d'ailleurs, il a écrit de nombreuses pièces pour violon et guitare. Paganini, en fait, était un homme de scène. Il était capable d'alterner très rapidement les deux instruments lors de concerts à succès. Il s'attachait même à conserver un certain mystère sur ses techniques de jeu, parce qu'en fait, il arrivait à jouer des trucs très difficiles que personne n'avait jamais entendu ou réalisé auparavant. Et ça aussi, il était aidé, en fait, par un problème médical, je dirais. Il avait une hyperlaxité ligamentaire. C'est-à-dire, ses mains, sans être plus grandes que la normale, pouvaient en fait s'étendre vraiment d'une manière hors norme. Donc il arrivait à faire des trucs que les autres n'arrivaient pas à faire. Et puis il fait aussi un des premiers musiciens à gérer sa carrière avec un certain sens de la publicité. Grâce à ses nombreux concerts, il en faisait plusieurs centaines en quelques années, en Europe, puis à Paris, à Londres. Et en fait, il a gagné plusieurs fois son propre poids en or, ce qui n'avait jamais été réalisé encore. Mais bon, le mauvais côté du bonhomme, c'est que dès 16 ans, il était connu quand même comme joueur, buveur, coureur de jupons. Alors malheureusement, il a fini atteint d'un cancer du larynx. Il est mort à Nice. En 1840, il a été enterré plus tard à Parme, en Italie. C'était une fascination qu'il exerçait sur le public, avec son grand corps maigre, ses longs cheveux, ses habits noirs. Alors on disait que c'était le diable personnifié. On dit même qu'à certains concerts, des femmes s'évanouissaient. Je vous propose de Paganini un concerto pour violon, en trois mouvements, composé aussi en Italie en 1826. Alors on n'entendra que le troisième mouvement de ce concerto, d'où son surnom, la campanella. La campanella, ça veut dire la clochette. Et en fait, c'est une petite clochette que Paganini fait intervenir à chaque retour du thème, vous allez voir. Le caractère de la cloche est également imité par l'orchestre et dans certains passages par le soliste. Le résultat donne un charme fou à cette musique. Donc je vous propose la campanella. Thank you. J'espère que vous aurez apprécié cette campanella de Niccolò Paganini. Vous voyez, une œuvre vraiment très difficile à jouer, mais tellement, tellement belle, avec cette petite cloche qui répond. Il y a le soliste, il y a l'orchestre, voilà. Et alors, il y a certains, comment dirais-je, petits articles qui étaient parus à l'époque de Paganini et plus tard, où on parlait justement de lui en disant... Les pouvoirs de cet homme sont au-dessus de la norme humaine. Et ça, c'est Goethe qui le disait. Un certain Ludwig Burn dit « Ce fut un enthousiasme divin, diabolique. Je n'ai jamais vu ou entendu quelque chose de semblable de toute ma vie. Tous les gens sont devenus fous. » Une autre personne, c'est Rossini. « J'ai pleuré 3 fois dans ma vie. Lors de la chute de mon premier opéra, au cours d'une promenade en barque lorsqu'une dinde truffée tomba à l'eau et lorsque j'entendis Paganini pour la première fois. » Alors, pourquoi Rossini dit ça? Parce qu'en fait, c'était un très grand compositeur, mais aussi un fin gourmet. Et il aimait autant manger que faire de la musique. Alors, vous voyez, c'est... Voilà. Quelqu'un d'autre dit « Vendez tout ce que vous possédez. Bradez tout, mais allez l'entendre. C'est le plus impressionnant, le plus surprenant, le plus merveilleux, le plus miraculeux, le plus inattendu des phénomènes jamais survenus. » Eh bien, dites donc, avec tout ça, il en a des belles choses. Et, eh bien, écoutez, maintenant, en fait, vous allez de nouveau me dire au revoir. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Voilà. Parce que tout passe très, très vite. Voilà. Et puis, on est au mois de janvier, mais on y sera encore la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker sur Radio Graphique 94.9, la radio curieuse, avec votre émission de musique classique, Glissando. Merci. Au revoir, à bientôt.